18h30, bien le bonsoir tout le monde et bienvenue aux amateurs de sport. Bon début de week-end également, on vous en souhaite un très très beau, une émission complète ce soir. De la belle visite à part ça, on va compléter l'émission ce soir et la semaine avec Marianne Saint-Gelais, sa dernière entrevue officielle en tant qu'athlète, elle qui a annoncé sa retraite un petit peu plus tôt cette semaine. Alors vous savez, c'est de l'or en barre, on va passer une belle demi-heure avec elle. Parmi les autres sujets au menu ce soir, eh bien du tennis avec Hélène Pelletier, football, début officiel de Johnny Manziel en match préparatoire ce soir, défaite des Alouettes hier. Bruno Eppel sera là, du hockey évidemment, du soccer. Vincent Destouches sera là dans quelques instants. Les commentaires de Philippe Quentin et pour revenir au hockey, bien Benoît Brunet tout à l'heure et d'entrée de jeu, nous accueillons Danny Dubé. Bonsoir Danny.
Toute une brochette, mon Mario.
Toute une brochette, comme à tous les soirs. Puis là, ben, c'est comme un peu l'entrée puis le plat de résistance en même temps. C'est bon, toute ben, une commande, hein?
Ça va être l'entrée.
Ça part fort, mon Danny. Oui. Comment tu trouves ça, la petite accalmie au cœur de la finale? Crois-tu qu'une des deux équipes pourra en bénéficier au niveau de l'énergie, au niveau de la stratégie ou quoi encore, tiens?
Ben moi, je pense que ça avantage Vegas.
Ah oui?
Oui, ben oui, pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand tu as gagné un match, tu veux tout de suite ressauter dans l'action le plus vite possible.
Ça, c'est vrai.
Tu dis l'équipe adverse est peut-être ébranlée. Là, écoute, la défaite, bon, est-ce que les gens disent, il y en a qui pensent le contraire, l'école de pensée, ah ben c'est bon parce que là, ils vont passer les quelques jours à réfléchir à leur défaite. Oui, c'est vrai, mais en même temps, je veux dire, la série se transporte à Washington, puis les Capitals vont avoir le temps de réfléchir qu'ils ont de la difficulté à domicile. Tu sais, je veux dire, moi je le vois comme ça. Moi je pense que il y a beaucoup de temps passé, l'aspect médiatique, répondre aux questions. Je sais pas si c'est bon pour Washington.
Et eux qui ont encore des choses à prouver, on dirait à domicile en quelque sorte, Danny, hein, pour Absolument. Des raisons qu'on ignore, mais leur fiche parle d'elle-même.
Ben oui, c'est obscur, là. Des fois, tu te demandes comment une équipe a autant de difficultés à domicile, alors que pourtant, c'est une très bonne équipe dans la Ligue nationale. Parmi les meilleurs dans l'Est, mais bon, écoute, c'est cette réalité.
Les grands mystères de la vie, Danny. Hein?
Exactement. Des fois, tu cherches, tu dis. Je pense que c'est souvent lié à l'attitude de tes meilleurs joueurs parce que c'est très difficile pour l'entraîneur à domicile d'avoir des surprises. C'était le dernier changement, mais le fait que tu as le dernier changement implique que tu reviennes plus souvent avec tes meilleurs joueurs. Donc, ça veut dire.
À moins que l'entraîneur adverse te place toujours tes meilleurs joueurs de façon à ce qu'à un moment donné... Tu sais, on le disait, on en parlait de ça il n'y a pas longtemps, Danny.
Ben oui.
Tu sais, les stratégies, bon, à l'étranger, il se passe de quoi, en tout cas? Il se passe de quoi par rapport à ça? Je sais pas si c'est la pression de vouloir plaire à ton public à domicile, d'en mettre un petit peu de crémage sur le gâteau.
L'effet du premier but, combiné à cette pression-là, qui vient, je sais pas si c'est faire plus plaisir, mais vraiment la pression des attentes. Donc, il y a ça. Aussi, le fait que si moi, je sais que tu veux faire jouer ton trio défensif puis que je suis très à l'aise avec mon meilleur trio contre tes joueurs défensifs parce que je vois qu'ils les maîtrisent bien, ben je mets mon trio. Puis toi, ben, pendant ce temps-là, tes meilleurs joueurs jouent sur le banc, façon de parler,
exact,
jouent moins souvent.
Exact.
Et ça, c'est pas tout le monde qui aime ça. John Cooper s'est peut-être un peu fait prendre à ce jeu-là dans la ronde précédente. Alors, c'est sûr que c'est des choses que, bon, à un moment donné, là, il n'y a pas de, comment je dirais ça, il n'y a pas de filon ou de recette unique, mais je pense que, honnêtement, l'avantage de la glace demeure pour moi un cadeau empoisonné si on regarde l'ensemble de l'œuvre.
Tout à fait. Par ailleurs, permets-moi de profiter de cette accalmie dans la finale pour amener dans la conversation d'autres sujets hockey. On est à un mois de la période d'autonomie pour ceux qui vont en bénéficier. John Tavares, Paul Stastny en tête, à moins que Stastny signe un contrat avec Winnipeg. Un autre dossier qui refait surface à tout bout de champ, c'est celui de Ilya Kovalchuk. On le sait qu'il va revenir dans la LNH sur TSN via Drager aujourd'hui. Mais ça, c'est en même temps, c'est pas une grande révélation. Danny, on l'entend tout le temps. On dit que la priorité de Kovalchuk, c'est de venir jouer avec une équipe avec laquelle il va pouvoir gagner. Maintenant, la question, c'est, toi, là, mettons que t'es l'agent de Kovalchuk, puis je te demandais d'y aider à choisir avec qui il va jouer puis qui va gagner, Danny, au-delà des masses salariales, là, avec quelle équipe tu choisirais toi-même si t'étais Kovalchuk, avec qui tu irais jouer?
J'allais faire une blague et dire avec les Devils du New Jersey.
Son ancien club.
On sait jamais. C'est une nouvelle direction, tout ça, puis je trouve que en fait, ce que je dirais à mon à, à mon joueur. C'est la première affaire, c'est évidemment une équipe qui a assez de jeunesse dans son alignement pour sentir qu'on est en ascension. Donc, parce qu'aujourd'hui, je suis convaincu que la plupart des équipes de la Ligue nationale qui ont du succès réussissent à avoir le mélange entre les jeunes et les plus âgés, même si les deux équipes en finale, c'est des équipes quand même assez expérimentées quand on regarde là, la moyenne d'âge et tout ça. Je demeure convaincu que dans l'ensemble de l'œuvre, si on regarde là, sur une échéance de 3 ans, on va voir les équipes qui ont un beau noyau de jeunesse avec des vétérans autour de venir un petit peu compléter les gars comme Kovalchuk, ça vient un petit peu compléter ce type d'alignement-là. Moi, c'est sûr que si je suis l'agent de Kovalchuk, je lui parle de Toronto. C'est sûr, je lui parle d'une équipe comme ça.
Ah, ouais.
Je lui parle de Boston, c'est sûr. Pourquoi? Parce que c'est deux équipes qui ont de très, très bons jeunes joueurs et qui sont actuellement en ascension, on le voit. De par la production et la contribution des jeunes joueurs. C'est pas juste d'avoir des jeunes dans l'alignement. Tout le monde en a des jeunes, mais est-ce qu'ils sont assez bons pour contribuer? Alors ça, c'est vraiment très important. Je pense que ça, c'est deux éléments super importants. Après, ton client, on le sait, Kovalchuk, ça va être glamour. Là. Il n'ira pas jouer en Caroline. Puis, je pense pas qu'il va aller à Columbus non plus. Là. Oublie ça. Là. C'est lui, il va chercher... New York est en train de rajeunir son équipe. Il va chercher des marchés comme ça. Est-ce que Philadelphie, c'est un marché qui pourrait l'intéresser? J'en sais trop rien. Mais moi, dans l'Est, là, d'entrée de jeu, Toronto et également Boston, c'est les deux premières équipes qui me viennent en tête. Mais la Floride pourrait être une destination intéressante, même si c'est pas glamour, parce qu'ils ont vraiment une très bonne équipe.
La destination l'est en ce sens que tu es au soleil dans le sud, pas la destination hot au plan hockey.
Et hot, mais c'est ça, mais pas hot.
À moins que ça le redevienne, on se rappelle de la fois qu'il avait fait la finale contre Colorado, les Ross à la patinoire, mais disons que ça fait belle lurette, pour paraphraser René Lecavalier. Hein? Mais donc, Toronto-Boston dans l'Est, tu sais, je te pose la question autrement, vois-tu une équipe où il serait le complément parfait, peut-être une équipe qui est vraiment là, qui est proche, je sais pas, je pense à San Jose, Anaheim ou Chicago, ou je dis sont proches, sont peut-être pas si proches que ça. Peut-être que le déclin est amorcé dans ces villes-là, Danny. En fait, je pense tout haut, là, en te parlant, en essayant de trouver une destination.
Écoute, peut-être que ce qui arrive, c'est que à un moment donné, un joueur comme lui, c'est un gars qui il va chercher à aller dans un marché. Bon, Vegas, c'est sûr que si Vegas a de l'intérêt, lui, il va regarder Vegas attentivement pour toutes les raisons au monde. Là. Ce que Vegas est en train de vivre, c'est une équipe qui va pas être moins bonne l'an prochain. Là. Je dis pas qu'ils vont se rendre en finale de la Coupe.
Non, mais en saison régulière, ils vont être bons encore.
Ils vont être encore bons. Là. Ça va être une équipe de 100 points. Ça va être une équipe qui va être en série pour plusieurs années à venir. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis convaincu qu'il va y avoir des changements, puis on va essayer du 109 dans la prochaine année. Là, c'est un beau conte de fées, mais quand tout ça s'arrête, là, il y a quand même des joueurs qui vont peut-être moins être dans l'espèce de portrait de famille. Là. On en a parlé l'autre jour. Là, ça va se resserrer un petit peu tout cet aspect de autour de qui on bâtit la prochaine étape. Parce que là les standards vont être établis. Ça devient les exigences vont être très élevées, etc., etc. Donc, moi, je pense que ça, c'est des éléments qui sont importants à considérer. Puis, un gars comme Kovalchuk, pour moi, il va regarder... comme je te disais tantôt, si je suis son agent, je vais dire, regarde, là, eux autres, au centre, voici les joueurs. Toi, tu as le potentiel de jouer avec tel gars. À telle place, tu as le potentiel de jouer avec tel gars et tel gars. San Jose pourrait être une destination intéressante. Il y a quand même des équipes. Bon, est-ce que Colorado pourrait l'intéresser? C'est une équipe qui a montré des choses intéressantes en termes de progression.
Maintenant, il s'agit de voir comment eux voient l'intégration d'un vétéran de 35 ans, Kovalchuk, avec les McKinnon et compagnie. Puis c'est ça qui est difficile à résoudre comme, disons, énigme ou comment eux envisagent ça. On peut quand même, je sais pas si on peut faire des comparaisons, l'impact qu'a eu Radulov avec les Stars de Dallas. Il a produit 72 points, mais son équipe a néanmoins raté les séries. Fait que t'auras pas de garantie pour l'équipe qui va acquérir ou qui va faire l'acquisition d'Ilya Kovalchuk.
Non, c'est sûr. Mais en même temps, tu regardes tu sais, moi, je pense pas que Dallas a manqué les séries parce qu'ils marquaient pas assez de buts. Je pense qu'ils ont eu beaucoup d'instabilité dans leur jeu en défensive, l'absence de Bishop, les problèmes. Moi, je pense pas que ça a été une bonne décision, leur coach. Bon, en tout cas, ceci étant, Saint-Louis, ça pourrait être une destination intéressante parce que eux, ils ont besoin de joueurs offensifs, c'est sûr. Je sais pas s'ils ont la capacité financière d'accepter un joueur comme lui, c'est un autre dossier complètement. Mais évidemment, écoute, c'est un dossier qui est le fun, mais en même temps, il faut être conscient que lorsqu'on fait l'acquisition d'un gars comme lui, on parle d'un mauvais contrat. Ça va être un mauvais contrat. Ça va être un contrat à long terme. Ça va être un contrat qui...
Mais je sais pas. Je sais pas si ça va être un contrat à long terme. Il y a 35 ans.
Oui, mais lui, il va. Écoute, là, l'intérêt est là. Il n'aura pas d'autre contrat après celui-là, Mario. Je pense qu'il va essayer vraiment.
De tout avoir dans le premier.
Dans le premier, c'est ça. Ensuite, bon.
Il y a moins de doutes à son sujet qu'il y en avait sur Radulov, qui lui a dû accepter un contrat d'un an quand il revenait à Montréal.
Oui, c'est ça. Et tu sais, l'autre chose, c'est que.
Mais il est plus vieux que Radulov, par exemple.
Il est plus vieux, mais c'est un joueur d'un point par match.
Radulov a juste 31 ans, quand même, là.
Oui, c'est ça.
Là, lui, il va avoir 32 au mois de juillet.
Ouais, c'est ça que je veux dire. Mais à Edmonton, par exemple, là, tu amènes Kovalchuk pour jouer avec McDavid. Là.
Mm-hmm.
On jase dessus. Là.
On jase, c'est on sûr. Jase. C'est bien intéressant.
Mais, c'est...
Toronto, eux... Colorado, Edmonton, là, c'est destinations intéressantes que tu soulèves par rapport à la nature de leurs équipes.
Oui, puis moi, écoute, je pense que c'est un joueur qui va donner du très, très bon rendement pour peut-être 2 ans. Après ça, ben là, on va être obligé de commencer à gérer une forme de décroissance. Et ça, c'est le coach qui va être pogné avec ça, si me prête l'expression, ce sera pas facile. Parce que c'est une super vedette, c'est un peu comme Jagr, tu sais.
Mm-hmm.
Ce sera pas une situation facile à gérer. C'est pour ça que je disais, tu sais, moi, j'ai l'impression que Vegas, eux autres, sont pas dans ce mode-là du tout. J'ai l'impression que Vegas, eux autres, ils sont dans le mode, on fait nos affaires, on se bâtit une équipe avec les joueurs qu'on repêche, avec
vraiment.
Les joueurs à lesquels on croit. L'autonomie, on ne croit pas nécessairement à ça ou c'est pas important pour l'instant. Ça va le devenir, surtout s'ils ne gagnent pas la Coupe cette année, ça va le devenir. T'sais, il va y avoir beaucoup de pression de l'extérieur. Les partisans, la direction de l'équipe, je parle des propriétaires, etc.
Dirais-tu qu'une équipe qui est prête à consentir, exemple, un 90 millions de John Tavares sur 7 ans, si ce n'est pas les Islanders, ou un contrat de 3-4 ans très, très généreux à Kovalchuk, que c'est une équipe en partie désespérée?
Pas dans le cas de Tavares, mais dans le cas de Kovalchuk, c'est définitivement un geste de marketing. Il y a beaucoup à voir avec ça. Là. C'est parce que sur le court terme, tu vas avoir une production offensive, mais ça ramène l'intérêt dans ton building.
Mais tu pourrais rater série pareil, comme Dallas l'a vécu avec Radulov.
Ben oui, c'est sûr.
Exact.
Ça.
Exemple, mettons, tu amènes Kovalchuk à Montréal l'an prochain, dépendamment des autres acquisitions. T'as pas de garantie que tu as fait toi un club de série nécessairement.
Non, mais moi je le considérerais. C'est sûr que c'est un gars qui. Ça dépend là, toujours de
ben oui.
C'est quoi le genre de contrat qu'il va avoir, mais honnêtement, je pense que si je me place dans les souliers de Marc Bergevin pour quelques secondes, là. Il y a ce qui est important puis il y a ce qui est urgent. Ce qui est important, c'est de faire du bon repêchage, c'est d'amener des bons jeunes joueurs dans l'organisation, puis ce qui est urgent, c'est gagner.
Et c'est sûr qu'en ce sens, Bergevin serait pas fâché de savoir que Kovalchuk est ouvert à le dîner jouer ici.
Ben c'est sûr, mais si je suis le conseiller de Kovalchuk, la première affaire que je lui dis, ben tu sais, il n'y a pas beaucoup de gars pour jouer avec toi là.
Ouais.
Je cherche le joueur de centre qui va jouer avec toi. Je l'ai pas trouvé encore. On va attendre.
On va attendre d'ici quelques semaines, Danny. Peut-être que c'est une discussion autour de laquelle va avoir plus de substance, disons.
Mais disons que entre les deux, là, parce que c'est quand même des grosses enveloppes dans les deux cas, en termes de budget, moi, c'est sûr que c'est...
Tavares.
Ben
oui.
J'allais dire, comme on dit à Vegas, all-in.
All-in. C'est un no-brainer, comme il disait.
Un no-brainer.
Hey, Danny, merci beaucoup. Qui gagne ça, le match numéro 3, là?
Ben, moi, je pense que Vegas va gagner.
Ah, j'aime ça,
Écoute, ils ont de la difficulté à la maison. Longue période, point d'interrogation pour Kuznetsov. En tout cas, moi, je pense que Vegas va rebondir.
On s'en reparle lundi. Bonne fin de semaine, Danny.
OK.
Merci beaucoup.
Bye-bye.
C'était Danny Dubé. Dans un instant, place à l'Impact avec Vincent Destouches qui nous parle de l'adversaire du week-end, Houston.